On a reçu il y a quelques jours de cela à la radio CHGA un ouvrage de l'auteur Dieudonné Gassore qui s'intitule « Au-delà de l'imaginable ». C'est un ouvrage très intéressant que je recommande aux gens qui porte sur le génocide qui s'est produit au Burundi dans les années 90. Une histoire qui, en tout cas personnellement, m'était un peu moins familière que celle du Rwanda dont on a entendu beaucoup parler. Donc ça m'a amené à avoir une réflexion différente, puis on y suit et on aura la chance d'y revenir. Mais quelqu'un dont qui a vécu l'horreur lors de ces événements-là et qui a accepté de partager son histoire à Dieudonné Gassore qu'on a en studio avec nous. Monsieur Gassore, bonjour.
Et bonjour.
On le dit et vous l'écrivez à plusieurs reprises, vous faites des parenthèses, vous avez interviewé un de vos amis. Ça n'a pas été facile, cette œuvre-là, parce que, bon, vous êtes du Burundi, vous n'avez pas vécu la même histoire que le personnage principal, mais vous la connaissez, vous l'avez quand même vécu autrement, cette histoire-là. Si on commence par parler de votre parcours, M. Gassore, vous êtes rendu maintenant à Déléage aujourd'hui. Du Burundi à Déléage, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous en êtes venu arriver chez nous?
Ben, ça aussi, c'est une longue histoire parce que je suis parti du Burundi en 2002. C'était pas facile non plus pour quitter le Burundi pour arriver ici. Je ne suis pas comme lui là, qui a vécu ces horreurs-là, mais moi aussi, j'en ai vécu. J'ai quand même une partie de l'histoire. Donc, partir du Burundi, je suis parti en 2002.
Est-ce que c'était un départ nécessaire?
Absolument, okay. Absolument. Parce que depuis 1993, le Burundi n'a jamais été stable. En 1993, le génocide a commencé et puis ça s'est exporté au Rwanda. Mais au Burundi, ça n'a pas été stable non plus parce qu'il y a eu la guérilla, puis avec toutes les horreurs que vous pouvez imaginer. Mm-hmm. Donc, le Burundi n'a plus jamais été stable. Puis, à un certain moment, il y a eu de la chasse à l'homme, de l'ethnie Tutsi et tout ça. À chaque fois, on échappait belle à la mort. Puis, alors, à un certain moment, il faut que je quitte.
Puis, la terre d'accueil, ça a été le Canada.
Oui, ça a été le Canada. Ben, je dois dire que j'étais chanceux parce que j'ai appliqué pour... la conférence mondiale sur les femmes et le sport, parce que moi j'étais entraîneur, puis j'ai été choisi, puis quand je suis arrivé ici, je me suis dit non, c'est fini le Burundi, je n'y retourne pas.
Ouais. Vous n'y retournez pas physiquement, mais vous y êtes retourné en souvenir, même si vous avez vécu des horreurs, lui en a vécu, mais est-ce que vous avez vécu par son œil à lui, j'imagine que c'était rien de surprenant parce que vous en aviez déjà entendu parler, mais est-ce que ça vous a fait prendre davantage conscience de l'impact que ça peut avoir sur l'humain qui survit, parce qu'à un certain moment, il dit « j'aurais préféré mourir peut-être ce jour-là que d'avoir à vivre avec ça toute ma vie ».
Ben absolument, parce que je dois vous dire que moi, personnellement, moi aussi, j'ai été chanceux, parce que quand ces choses ont commencé, moi, je venais de quitter ma région, donc c'est comme si ça s'est passé directement après mon départ. Donc, ça veut dire que pour avoir survécu à ces choses-là, c'est à coup de chance que je voudrais dire, c'est à coup de chance que tu peux survivre à des choses comme ça. Alors,
ou la main de Dieu peut-être, parce que je pense que ça revient à plusieurs moments dans l'ouvrage, on dit que il y avait un ange gardien, la providence, justement la main de Dieu. Il y avait quelqu'un qui veillait, quelqu'un de bienveillant. Ça, c'est important aussi.
Moi, je trouve que tous ceux qui ont survécu à ce génocide, que ce soit au Burundi, que ce soit au Rwanda, c'est vraiment, comme il a dit, c'est la main de Dieu. Parce qu'à un certain moment, il n'y a rien que tu peux maîtriser.
Sauf ouais, c'est ça, même où la détermination, mais même à un certain moment, on sent qu'elle est extérieure à lui-même. Il sent pas comment il a l'énergie de continuer, mais il y a une force qui provient. Puis ça, c'est intéressant parce que ça revient souvent, ça, dans l'ouvrage. Il sent fatiguer le personnage principal parce qu'on va situer les gens, là. Ça commence dans les premières pages, il est en famille à la maison, et finalement, il y a ce soulèvement des gens qui viennent pour attaquer. Et là, ben lui, le personnage finit par chance ou par on sait quel miracle, s'en sortir, se sauver. Malheureusement, sa famille n'a pas la même chance que lui. Donc, ça commence, on est dans le vif de l'action. Et après ça, ben, Il court, c'est pour la survie. Là. C'est vraiment c'est une chasse à l'homme ou une quête de la survie. Et on sent que pendant, on ne sait pas combien de temps, parce que même c'est difficile à situer dans le temps. On dit peut-être une journée, un mois, une éternité, on a de la difficulté à se situer. Même lui a trouvé une force intérieure qu'il ne se connaissait pas. Là. C'est quelque chose de surhumain.
Mais justement, c'est en grande partie pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre. Pourquoi, dans une situation où on est en situation de survie, on a une force extraordinaire qui survient de nulle part. Mais que dans une situation normale où on a faim, où on est confronté à une difficulté de la banque vient de saisir ma maison, j'ai envie de me suicider, ou alors je suis en train de travailler, je craque. Mais pourquoi on pourrait pas canaliser cette force intérieure qui se trouve quelque part dans une situation de survie pour probablement essayer d'endiguer d'autres défis que nous vivons au quotidien. C'est en grande partie pourquoi j'ai écrit ce livre.
Est-ce que vous avez une réponse? Parce que, puis à un certain moment, vous interpellez aussi des psychologues où on dit qu'il faudrait qu'un psychologue se pose la question ou étudie. Parce que j'imagine que vous n'avez pas les réponses, mais c'est des pistes de réflexion intéressantes.
Mais j'ai pas de réponse, mais je sens qu'il y a une réponse qui se trouve quelque part. Mais justement, en parlant de cela, quand je parlais avec mon prof Terry Olick, c'est lui qui m'a incité à écrire ce livre, on parlait parce que moi j'ai fait de la préparation mentale, donc j'ai fait une maîtrise en préparation mentale.
Du côté d'Ottawa?
Oui, à l'Université d'Ottawa. Puis à un certain moment, on parlait de tout ça, puis il m'a dit, est-ce que, prof Terry, est-ce que tu as un jour utilisé un concept comme ça? Il m'a dit, oui. Il m'a dit que à un certain moment, il faisait de la préparation mentale d'une athlète du ski alpin, et puis que l'athlète là ne pouvait pas pousser à fond pour avoir la vitesse maximale qu'elle voulait. Et puis il m'a dit à un certain moment, j'ai dit pourquoi pas on travaille sur quelque chose de dangereux. Donc il a dit ok, imagine avant ton départ qu'il y a une avalanche derrière.
Juste alors, pour stimuler un peu l'instinct. Là.
Oui, l'instinct de survie. Donc, c'est ça. Donc, ils ont préparé ça. Puis, à un certain moment, la fille a fait la simulation. Puis, au moment des Olympiques, elle a poussé, croyant qu'il y a une avalanche derrière. Puis, elle a décroché une médaille de bronze.
Wow.
Donc, je me dis que quelque part...
Il y a quelque chose quelque part en dedans de nous. On l'a en dedans de nous, cette force-là.
Oui, on doit la voir, mais... Ma question, c'est comment le canaliser exactement au moment voulu où est-ce qu'on veut lâcher? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut utiliser qui est en nous pour pouvoir dire, OK, ta vie est plus importante que la difficulté que tu es en train de, de vivre?
Quand on écrit un roman de fiction ou qu'on invente une histoire, tu sais, on pond notre roman, on est fier, on dit, bon, ben c'est l'histoire que j'avais en tête. Ça, c'est votre histoire, mais c'est pas votre histoire aussi. Vous en êtes l'auteur, mais c'est l'histoire qu'on vous a racontée. Puis on n'entre pas dans les détails sanglants, sanguignolants, ou à un certain moment, il retourne à la maison qui a fui, il se rend compte que la maison n'est plus là, il cherche sa famille, je vous donnerai pas le punch, mais il fait des découvertes macabres. Mais vous n'entrez pas dans les détails, c'était voulu aussi. Vous vouliez pas rentrer dans cette intimité qui lui reste. Vous vouliez conter l'histoire, mais sans nécessairement gratter le bobo.
Parce que justement, à un certain moment, pour moi aussi, c'est douloureux de rentrer dans les détails de ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. C'était à un certain moment aussi douloureux que lui de vivre ça.
Quand vous dites à un certain moment, j'aurais aimé quitter la table, m'enfuir, le laisser là parce qu'il est sur le bord de craquer quand il vous raconte l'histoire. Puis vous dites, je peux pas faire ça, il m'a fait confiance, je dois avoir la force de poursuivre, mais ça n'a pas été facile, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est vraiment pas facile. J'ai même l'image maintenant. Est-ce que je devrais écrire ça? Je me suis dit, probablement, heureusement pour moi, j'ai su chercher des mots qui racontent l'histoire, mais sans les détails. Parce que les détails, c'est horrible.
C'est déjà horrible comme histoire, sans avoir besoin des détails, je vous dirais. On peut, l'esprit humain est fait ainsi, hein? On peut s'imaginer le pire, malheureusement. C'est quoi la suite? Parce que, bon, là, on raconte l'histoire. Vous dites que vous continuez à chercher. Vous dites comment ramener cette force. Puis là, je lis la pochette derrière le livre. Comment ramener cette force pour la survie et la mettre au service de la performance. Est-ce que ça, c'est une quête que vous continuez?
Oui, 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 oui. Je viens de lâcher comme enseignant, mais je continue d'être entraîneur. C'est toujours une quête que je poursuis parce que à un certain moment, quand on est en train de faire de l'entraînement et de la performance, à un certain moment, on se sent qu'on est épuisé, qu'on veut lâcher. Mais je me dis, si je pouvais avoir un moyen d'utiliser ce changement de cap, si je peux ainsi dire, de cap entre le moment de lâcher, mais ramener cet instinct de survie pour nous surpasser. C'est une quête que je poursuis dans mes séances d'entraînement, dans mes séances de coaching avec les athlètes.
On parle de l'œuvre ici au-delà de l'imaginable. C'est paru aux éditions Sidney Laurent. Ça, c'est du côté de la France?
Oui, c'est de la France.
Est-ce qu'il est disponible en librairie ici?
Non, justement, parce que j'ai demandé comment les bibliothèques peuvent en avoir. Et ils m'ont dit qu'il faut que la bibliothèque commande directement de la maison d'édition.
Donc, si des gens entendent et ont le goût de lire l'œuvre, on pourrait aller à la bibliothèque, le demander, ils pourraient en commander une copie.
Oui. Et puis, je pense que c'est aussi disponible sur Amazon. Je me rappelle bien qu'il y a des gens qui l'ont commandé sur Amazon.
OK. Pour les gens qui connaissent moins bien cette histoire-là, comment on peut... Ça serait quoi l'image que vous donneriez aux gens? Parce que Hutu et Tutsi, avant ce soulèvement-là, c'était... Il y avait... Tu sais, ils vivaient ensemble, ils se côtoyaient, ils travaillaient ensemble, c'était des amis. Il n'y avait pas ce clivage-là qui a existé. En tout cas, de ce que je comprends, tu sais, on parle au début, justement, je peux le dire parce que c'est dans les premières minutes du livre, mais celui qui conduit finalement les assaillants à la maison, c'était il l'appelait son frère. Donc, c'est des gens qui se côtoyaient, qui vivaient ensemble, mais du jour au lendemain, comment on explique ça aux gens, tu sais, pour que les gens comprennent un peu ce qui s'est passé dans le pays pour en arriver là?
Moi, je ne suis pas sûr que... Il y a quelqu'un qui va pouvoir comprendre. Oui, ce clivage-là ethnique a toujours existé.
OK.
Mais ce clivage ethnique, c'est beaucoup plus alimenté par les politiques que le social.
Bien, Dieudonné Gassoré, vous êtes auteur du roman Au-delà de, roman du livre Au-delà de l'imaginable, une histoire vraie qui n'est pas romancée, mais dont les noms des personnages ont été modifiés à des fins de confidentialité. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir avec nous. Je le disais, c'est paru chez les éditions Sidney Laurent, donc disponible si on en fait la demande en librairie également sur Internet. Merci beaucoup, puis bonne chance.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité.